Tristan Bernard, mort de piston. À vous, Girard, à l'hôtel Calcutta, j'ai connu un petit café où il en venait quelques-uns de bons. Charles Charlot, qui s'était établi à Clairvaux, et Bruden, dit Riquet, qui a traversé la Manche. Il y avait aussi là une mouche, un homme de la sûreté, qui était brûlé et qui faisait semblant de ne pas s'en apercevoir, afin qu'on ne sorte pas de ce quartier où il avait ses habitudes. Enfin, j'ai vu ce grand garçon, que des fois on appelait Émile et d'autres fois le télégraphe, parce qu'on l'avait employé pour porter des sacs au bureau de poste. Télégraphe était un grand garçon, pâle, avec une moustache noire. Il m'en imposait beaucoup, mais je crois qu'il n'était pas sans avoir pour moi une certaine considération. C'est moins par besoin de confidence que pour m'étonner un peu qu'il m'a raconté ses affaires. Vous vous rappelez le crime de la rue Galilée, l'assassinat de la fille Crouzard ? M'a dit un soir télégraphe. C'est d'après cette histoire-là que je me suis mis la bande, a-t-il ajouté après un long silence. J'ai vu qu'à travailler seul, on risquait trop et qu'on n'avait pas grand-chose. On se fit donner du mal pour cette histoire-là. Elle en avait fait du bruit dans les journaux, mais chaque fois qu'il en parlait, j'étais tout honteux. On disait « L'assassin de la rue Galilée, en voilà un malin qui s'y connaissait. » Oh, je me sentais bien giflé chaque fois que j'entendais ça. Et je me disais « Ce qu'on se foutrait de sa fiole à ce malin, si on savait ce qu'il a gagné en Galilée, qu'il a éventré une demi-douzaine de tiroirs et forcé un nécessaire pour apporter juste la peau. Mieux que ça que je ne veux pas dire à personne que vous, c'est que j'y ai laissé un par-dessus tout neuf, un par-dessus que j'avais chauffé la veille aux courses de Longchamp. Non seulement que je ramenais pas de Bézébu, mais il fallait encore qu'il soit du mien. Et pour donc cette affaire-là, c'est là que je me suis mis en bande. Oh, c'est moins battant, mais c'est plus sûr. La bande a des renseignements qu'un simple bibi, margoulin comme vous et moi ne peut pas se procurer s'il est tout seul. On ne travaille plus à l'aveuglette, on sait où on va, c'est qu'on va. Alors j'ai d'abord été dans la bande à Cossio, dit Robert, qui en appelait encore Gustave à Javel. Costo était un vieux nez fin, oh, dit donc je l'ai connu. Il avait, sous ses 25 ans, il venait de terminer son congé. Ça rend paresseux, d'ordinaire. Et lui, pourtant, n'était pas feignant. Une fois, rien que samedi au lundi, on a couché 4 bons hommes dans la banlieue et déménagé des villas. Son défaut, c'était d'être rapia. Il m'assurait, comme aux autres, mes nuits francs par semaine, ce qui n'est pourtant pas vilain. Mais il nous payait en plus les frais d'omnibus et le chemin de fer. Parce qu'on allait tous les jours en reconnaissance. C'était son système d'occuper ses gens l'après-midi pour ne pas les laisser à rien faire. C'est bon, si vous voulez. C'est mauvais dans notre sens. Je serais plutôt pour envoyer les gosses qui n'inspirent pas méfiance et qui n'ont l'air de rien. Faut mieux pas faire remarquer celui qui doit travailler. Mais ce que mon costaud était chipoteur dans les comptes, pour se faire rembourser 3 sous d'omnibus, C'était l'affaire d'une demi-journée. Le soir qu'on a été à Saint-Mandé et qu'on a étendu les deux gardes, on avait travaillé pendant 3 heures. On avait lutté à bras-corps avec eux. On les avait eus en force. Eh bien, mon costaud, en revenant, nous a payé un verre en la barrière. Ce verre-là, il a reproché pendant 15 jours. Le jour de la redevendeuse, c'était un dimanche. On était 4. On avait passé l'après-midi à la fête à Neuilly. Puis on avait été dîner au Valois, chez un ami. On devait se trouver à la Madeleine sur le coup de 10h30, devant le passage. On descend donc du Valois en train. On part à l'intérieur. Il tombait des seaux d'eau. Cocteau, qui payait comme de juste pour en cas de correspondance, ça coûtait pas plus cher. Arrivé au passage, on monte chez la revendeuse et on fait un travail rapide, si bien qu'on a opéré la bonne femme et aussi les bijoux en moins de 25 minutes. Ma casquette était traversée de sueur. On décide de finir la soirée au boulevard Richard Lenoir, chez des filles que l'on connaissait. On va donc prendre l'omnibus à la station. Et voilà-t-il pas bon costaud qui veut retirer ses 4 correspondances au refilet au contrôleur qui dit qu'elles sont plus bonnes et de s'engueuler. À rien de plus, et nous allions tous au poste. C'était vraiment pas l'instant de nous faire remarquer. Et du costaud, je suis été avec le plombier. Oh, le plombier était moins ficelle que le costaud, mais son défaut, c'est qu'il était pas hardi, un maniaque. J'admets qu'on ait des précautions, mais le plombier, c'était à propos de tout et à propos de rien. Il perdait son temps, il pensait à vouloir tout parer. Il ne pouvait jamais quitter l'endroit où il venait de travailler pour se perdre d'y laisser un bouton de culotte ou quelques morceaux de papier. Alors il revenait 3 fois pour faire le tour des 4 chambres. Robert Kampf, monsieur, je l'ai vu remonter 6 étages pour placer une dizaine de coups de couteau à son client, qui, j'en suis sûr, était déjà froid depuis une demi-heure. Et puis, dans la bande aux plombiers, il y avait des mal élevés, des gens qui savaient que gueuler, avec qui on n'avait pas moyen de rien causer ni dire. Un jour qu'on travaillait chez une famille patente à l'hôtel des Capillans, au cours de la Reine, deux de ces voyous ont trouvé rigolo de poser des cochonneries en plein tapis du salon. De quoi qu'on avait l'air. Mais, dis-je un soir à Télégraphe, on se sent bien dans votre métier, on ne se trahit pas. « Oh, c'est comme partout, » dit Télégraphe. « Il y a les bons et les mauvais. Faut bien croire qu'il y en a souvent des vendus, puisqu'il n'y en a pas souvent de punis. Il n'en manque pas de braves, de gentils garçons sur qui l'on peut compter. Vous avez jamais dit l'histoire de Piston ?» La mère Value tenait un garni à Grenelle, en face du puits artésien. Oh, la maison a été démolie l'an dernier. Voilà qu'il y a 2 ans, un soir après le Grand Prix, qui sait qu'on voit arriver au garni? Mon cher, c'est 2 Anglais, 2 grands gaillards avec des moustaches rousses qui leur tombaient sur la bouche, des casquettes à carreaux, et sauf votre respect, du pognon à la clé. Le plus grand qui dépend du comptoir et s'enfilait comme rien du tout des consommations de 40 centimes. Il venait traverser en France, travailler à différentes bricoles. Ils ont montré tout ce qu'ils avaient chauffé au grand prix. Des portefeuilles de dames en marocain, des petites montres, des mouchoirs, enfin, tout ce qu'il y avait de joli. Mais la grosse affaire, c'était une villa à Auteuil qui appartenait à une dame de leur pays. Cette dame devait s'absenter un certain soir et dans les cours songer à ses domestiques. L'eau de rosbif parle à la mère Hurlu et lui demande si elle ne connaîtrait pas un gosse pour guetter. Oh, ils disent qu'ils lui donnent 12,50 francs, que c'était le prix chez eux. Le prix chez nous, c'est 4 francs, leur dit cet homme, bonne pie de Mervalu. Pourquoi qu'elle ne le laissait pas donner à leur idée? Mais, dès l'instant que ça ne trouvait pas sans sa poche, elle voulait s'en payer, de faire la grande et généreuse. Elle leur indique donc un gosse de 13 ans, piston, un petit gars que je vois encore avec sa tête un peu grosse. Il jouait aux billes toute la journée dans la cour du Garni. Quand on prend des gosses pour faire le guet, on aime mieux choisir ceux qui sont joueurs et qui ont des camarades que ceux qui travaillent et qui vivent sans compagnon. Parce que de jouer tout le temps ensemble, de s'empêcher de tricher, ça rend les enfants plus loyaux. Mes Anglais acceptent piston et demandent encore un gros pour guetter au tournant de la route. On leur donne un autre gars, plus grand, un appelé Philippe, qui allait bien sur ses 16 ans. Le soir, tout notre monde trotte à Auteuil. On installe Philippe à son coin de route. À 100 pas de l'entrée, piston prend place sur un des piliers de maçonnerie, à côté de la cour d'entrée. La consigne, s'il y avait danger, c'est de guetter à gueuler à toute force « Tra-boum-boum de bain !» Comme les Anglais étaient en train de travailler depuis 10 minutes, voilà Piston, toujours en action sur son pilier, qui voit arriver Philippe et mon Philippe, qui les avait vendus, se mettent à dire à Piston qu'on est d'accord avec les mouches et qu'on va emballer ces cochons de rosbif. Pourquoi ça ? Demanda Piston, ces cochons de rosbif. Ils m'ont donné 4 francs pour les veiller. Ben, t'aurais mieux si tu les vends, dit Philippe. T'auras 2 livres tout entiers en or. Regarde-les briller, c'est 10 fois les 4 francs. De quoi t'acheter 15 000 billes. Mais le petit piston répète qu'il a promis de garder les Anglais et qu'il les gardera. Philippe commence à renier. Mais petite punaise, souffle-t-il. Si tu ne descends pas de là, je vais te descendre. Et il se met à tendre sa fronde avec une grosse pierre dedans. Cependant, les vaches s'étaient approchées. Il y en avait bien 6 avec le commissaire. Descendras-tu, disait Philippe, ou je t'envoie cette pierre dans la figure. Et alors, on voit la Pison qui, de toutes ses forces, se met à crier et à chanter « Taraboum-boum-boum, taraboum-boum, taraboum-dé !» Philippe, de colère, lâche sa fronde. Le gosse reçoit la pierre au front, juste près de la tempe, et tombe à terre, comme un oiseau. Les vaches entrent dans la maison, mais les Angliches avaient entendu et s'étaient donné de l'air. Et qui c'est qui s'amène l'instant d'après? C'est madame, la dame anglaise, à qui était la maison. Elle voit mon gosse étendu mort par terre, me demande ce que c'est. Et à cause de cet insecte-là, dit le commissaire, ils ont pu vous prendre vos bijoux. On les a pas pincés. Il raconte l'histoire, la dame l'écoute, et quand il a fini, elle ne dit rien. Elle va à piston, elle se baisse et l'embrasse sur son petit front sale. Puis elle regarde le commissaire et lui dit en montrant le gosse, « C'était un fidèle garçon. Nous quittâmes l'hôtel Calcutta. Il était tard. Télégraphe me reconduisit jusqu'à ma porte. Nous marchions sans rien dire. Joseph Para avait aussi 13 ans, pensais-je tout, quand il mourut à Cholet, sous les baïonnettes vendéennes. « Oh, je connais ça, » dit Télégraphe. « J'ai eu sur les images. Mais le tambour, lui, il allait pour la gloire. C'était en plein temps de guerre. Il était chauffé à blanc. Il se disait, « On me crève, mais je vais être battu en crevant. » Tandis que mon vieux petit piston s'est fait coucher pour ses 4 francs. C'était compris dans son ouvrage. Il est mort pour ces 2 cochons de rosbif qu'il ne connaissait pas, mais avec qui il s'était engagé, qui s'était fier, lui.